VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Anastasie Tudiech et Morgane Guériac au micro. Bienvenue à cette édition du vendredi 26 février 2016. Au sommaire ce soir, élection au Niger, pas de coup KO. Mahamadou Issoufou affrontera Amahamadou au second tour de la présidentielle. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place, Nicolas Pineau.
Le président Mahamadou Issoufou, selon ses résultats provisoires globaux, est crédité de 48,41% des suffrages. Deuxième, Amahamadou, le leader du modèle Lumana, avec 17,79% des suffrages.
Crise burundaise, la délégation de l'Union africaine a rencontré le président Pierre Nkurunziza ce vendredi.
Nous sommes tombés d'accord qu'il faut rapidement saisir la médiation pour que le dialogue inclusif commence très rapidement.
Réduction du mandat présidentiel au Sénégal, la décision du président Macky Sall qui continue d'indigner l'opinion. Conflit en Syrie, l'aviation russe intensifie ses frappes à quelques heures de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Niger, nous l'annoncions en titre, il n'y a pas de coup KO au premier tour, comme l'avait promis le président sortant. Mahamadou Issoufou devra affronter l'opposant Amahamadou lors d'un second tour. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Le président Issoufou, 63 ans, qui briguait un deuxième mandat de 5 ans, a obtenu 48,41% des suffrages. Amahamadou, ancien premier ministre incarcéré depuis novembre 2015 dans une affaire de trafic d'enfants, a recueilli 17,41% des voix et sera donc présent au second tour qui devra avoir lieu fin mars. Nous retrouvons en direct à Niamey notre envoyé spécial Nicolas Pineau.
Et oui, Boubé Ibrahim, le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a livré le verdict des urnes ici au Niger. Et donc, il y aura un second tour. Le président Mahamadou Issoufou, selon ses résultats provisoires globaux, est crédité de 48,41% des suffrages. Deuxième, Amahamadou, le leader du modèle Lumana, avec 17,79% des suffrages. Troisième, Seyni Oumarou, crédité de 12,11% des suffrages, le président du MNSD Nassara. Le suspense est donc levé ici. L'opposition qui promettait de descendre évidemment dans la rue et d'appeler à la résistance en cas de victoire annoncée au premier tour pourra donc peut-être être satisfaite ce soir. En tout cas, l'opposition dévoilera demain la COPA, la coalition pour l'alternance, qui dévoilera demain ses propres résultats du second tour. Mais l'information de la soirée, c'est bien évidemment le second tour qui aura lieu ici au Niger. Nicolas Pineau, Niamey, VOA Afrique.
Violence au Burundi, au moins 6 personnes ont été blessées, dont une très grièvement par l'explosion d'une grenade dans le quartier populaire de Buyenzi, dans le centre de la capitale Bujumbura. Des témoins ont assuré à l'AFP que l'explosion a entraîné l'arrestation d'une dizaine de jeunes qui se trouvaient dans les environs.
L'attaque intervient au deuxième jour de la visite d'une délégation de chefs d'État africains. Ils ont rencontré aujourd'hui le président Pierre Nkurunziza après des entretiens la veille avec des représentants de l'opposition, puis aujourd'hui avec un ancien chef d'État burundais. Tous ont insisté auprès de la délégation de l'Union africaine sur la nécessité d'organiser à l'étranger un dialogue incluant toutes les parties à la crise. La nuit passée, 3 autres grenades ont explosé dans le quartier de Jabé sans faire de victimes. En revanche, une explosion dans le quartier de Moussaga a fait un blessé. Nous reviendrons sur la crise burundaise en seconde partie d'émission.
L'Éthiopie accuse l'Érythrée d'être derrière les manifestations de novembre 2015 dans la région de l'Oromia. Le gouvernement éthiopien avait violemment réprimé ces manifestations, causant plus de 140 morts selon Human Rights Watch.
Tunisie, les autorités entendent engager des poursuites judiciaires contre des responsables syndicaux suite à la manifestation policière d'hier. Des centaines de policiers habillés en civil, scandant des slogans hostiles au Premier ministre Habib Essib, ont manifesté hier devant le siège de la présidence du gouvernement pour réclamer de meilleurs salaires. Les autorités déplorent l'expression de slogans politiques, loin de l'action syndicale et des revendications professionnelles, ainsi qu'une perturbation du rythme du travail. Les responsables syndicaux sont donc accusés de pratiques honteuses et d'abus flagrants.
Et puis cette nouvelle insolite, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a offert 300 vaches à l'Union africaine pour aider l'organisation à devenir plus indépendante financièrement. C'est ce qu'a fait savoir un député zimbabwéen. Ce don survient alors qu'un quart de la population du Zimbabwe est en état d'insécurité alimentaire et que le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions en raison de la sécheresse.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, à quelques heures de l'entrée en vigueur attendue d'un cessez-le-feu parrainé par les Russes et les États-Unis, l'aviation russe a intensifié ses frappes sur les bastions rebelles ce vendredi. Bagessikoura.
Cette trêve annoncée par Washington et Moscou, la première du genre en 5 ans, doit commencer samedi à 0h locale. Son application est très compliquée vu les alliances sur le terrain entre les rebelles et les djihadistes. Le régime de Bachar al-Assad, une centaine de factions rebelles et les forces kurdes ont dit qu'ils vont respecter le cessez-le-feu. Mais le régime, aidé par son allié russe ainsi que la coalition internationale dirigée par les États-Unis, continueront à cibler le groupe État islamique et le front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Ces deux groupes occupent près de la moitié du territoire syrien. Les rebelles sont d'ailleurs très affaiblis, ne contrôlant qu'une partie minime, notamment près de Damas, Alep dans le nord, Homs dans le centre et une partie du sud du pays. Le conflit syrien aura fait plus de 270 000 morts. Plus de la moitié de la population a été déplacée avec un afflux de réfugiés sans précédent vers les pays du Moyen-Orient et vers l'Europe.
Sachez également que la Turquie a annoncé se réserver la possibilité de mesures supplémentaires contre la milice kurde syrienne, déjà visée par des tirs d'artillerie. Ankara n'exclut pas des raids aériens, a déclaré aujourd'hui un haut responsable turc à quelques heures de l'entrée en vigueur d'une trêve en Syrie. Ils sont conscients que la situation tourne à leur avantage. Ils ont le soutien des Américains, d'Assad et des Russes, estime la Turquie.
Quelque 55 millions d'Iraniens sont appelés à se prononcer pour renouveler deux instances dominées par les conservateurs, le Parlement et l'Assemblée des experts, des religieux chargés de nommer et au besoin de remplacer le guide suprême. Ces élections sont les premières depuis la conclusion en juillet d'un accord entre les grandes puissances et Téhéran sur le programme nucléaire iranien. On fait le point avec Salwa Jafari.
Devant le bureau de vote de Hossein Irshad à Téhéran, une longue file d'attente est visible. Les Iraniens ont été nombreux à répondre présents à ce grand rendez-vous électoral. Le guide suprême, Ali Khamenei, a été l'un des premiers à donner l'exemple. « Nous avons des ennemis qu'il faut décevoir », a-t-il déclaré. Ces élections sont les premières depuis la conclusion en juillet d'un accord entre les grandes puissances et Téhéran sur le programme nucléaire iranien, qui doit permettre à l'Iran de sortir de son isolement et de relancer une économie affaiblie par près de 10 ans de sanctions internationales. Taher Meissami, une activiste iranienne, a mis un point d'honneur à voter.
Il y a des problèmes économiques, le chômage. Les gens sont un peu fatigués des politiques extrémistes. Pour se débarrasser de ces problèmes, les gens veulent voter pour que, si Dieu le veut, ils peuvent sélectionner les législateurs qui peuvent répondre à leurs demandes.
Les Iraniens ont à choisir parmi 4 844 prétendants, dont près de 500 femmes, pour renouveler les 290 membres du Parlement et parmi 159 candidats, tous des hommes, pour pourvoir les 88 sièges de l'Assemblée des experts. Les réformateurs sont cette année au rendez-vous, même si nombre de leurs responsables ont été écartés de la course par le puissant Conseil des gardiens de la Constitution. Les bureaux de vote ouverts depuis 4h30 GMT fermeront à 14h30. De premiers résultats partiels sont attendus dans les 24 heures.
À Barcelone, tension autour de l'accueil des migrants. Plus de 6 mois après le lancement d'un plan d'accueil des migrants fuyant la guerre, tout est prêt, mais seulement 18 réfugiés sont arrivés. Un nombre ridicule pour l'ensemble de l'Espagne, dénonce Pascal Coissard, porte-parole de la commission d'aide aux réfugiés en Catalogne. Alors qu'hier, les pays de l'Union européenne se déchiraient encore à Bruxelles sur la crise des migrants, la mairie de la deuxième ville d'Espagne a présenté son plan Barcelone-Ville-Refuge. Ignasi Calvo, coordinateur du plan, doté d'un budget de 10,5 millions d'euros, accuse « Le gouvernement ne nous donne pas la moindre information » et il prévient « Les droits de l'homme se placent au-dessus de la législation européenne », sans entrer dans les détails.
Et pendant ce temps, la Commission européenne rejette les mesures de laissez-passer, jugeant que laissez-passer les demandeurs d'asile les incite à circuler de manière irrégulière dans l'Union européenne et sape le fonctionnement du plan de relocalisation. La Commission juge également que les États membres qui ont réintroduit des contrôles à leurs frontières doivent refuser l'entrée non seulement aux migrants irréguliers, mais aussi aux candidats à l'asile, disant vouloir déposer leur demande ultérieurement dans un autre pays. La Croatie et la Slovénie ont annoncé aujourd'hui qu'elles voulaient limiter à 580 par jour le nombre de migrants autorisés à transiter par leur territoire. L'Autriche avait récemment annoncé un quota quotidien de 80 demandeurs d'asile admis sur son territoire et de 3200 personnes qu'elle laisserait transiter. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Les cours du cacao ont fortement progressé cette semaine pour grimper jeudi à Londres et New York respectivement à 2215 livres et 2968 dollars la tonne. La météo pousse les opérateurs à l'achat, estiment les analystes. Ils s'attendent à ce que la récolte intermédiaire pour la Côte d'Ivoire et le Ghana, les plus gros producteurs au monde, soit plus faible que d'habitude à cause des vents de l'Harmattan qui accentuent la sécheresse en Afrique de l'Ouest. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a procédé ce vendredi à Brazzaville à la pose de la première pierre du siège de la banque sino-congolaise pour l'Afrique qui sera construite pour un coût de 30 milliards de francs CFA, indique l'APA. Le bâtiment de 15 étages s'étendra sur une surface globale de 23 000 m². Première implantation en Afrique d'un groupe bancaire chinois, cette banque ambitionne d'être une plaque tournante des finances en Afrique centrale. Le géant minier Anglo-American a annoncé ce vendredi qu'il supprimera au moins 2000 emplois dans ses mines de platine de Twickenham et Union en Afrique du Sud, en raison de la baisse des cours des matières premières et du ralentissement de la demande chinoise. Des milliers d'emplois ont été supprimés ces dernières années dans les mines de platine, dont l'Afrique du Sud fournit 70% de la production mondiale.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie.
Et on passe au sport tout de suite avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Toudièche.
Alors on commence par le football, FIFA, information FIFA. Abemous Papam, on pourrait dire, Infantino, élu 9e président de l'instance mondiale du football.
Oui, il a été élu au second tour avec 115 voix sur 207 votants. Et le nouveau président aura pour mission de restaurer l'image et la crédibilité de la FIFA écornée par la pire crise de son histoire sur fond de corruption à grande échelle. Joseph Blatter devra quitter son appartement dès ce soir ou alors payer son loyer parce que c'était l'appartement de la FIFA. L'élection a été précédée par l'adoption de nouvelles mesures en guise de réforme pour améliorer la transparence et la gouvernance avec surtout une limitation à 12 ans du cumul des mandats du président.
Ça promet, affaire à suivre. Au Nigeria maintenant, Sunday Oliseh démissionne, lui, de son poste de sélectionneur.
Exactement, Anastasie l'a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oliseh a invoqué des violations dans son contrat et un manque de soutien de sa fédération.
Foot toujours, Europa League, Liverpool-Manchester United, choc des huitièmes de finale.
Liverpool rencontrera Manchester United les 10 et 17 mars, selon le tirage au sort effectué aujourd'hui au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Les deux clubs anglais, en difficulté en Premier League, ont également souffert pour se qualifier pour les huitièmes d'Europa League.
On va en Espagne, un derby pour rêver encore, le Barça pour un record.
Ah oui, Anastasie, le derby Real Madrid-Atlético Madrid de demain en championnat d'Espagne est forcément un match spécial, a estimé aujourd'hui l'entraîneur merengue Zinedine Zidane, qui a assuré que son équipe allait continuer à croire au titre jusqu'au bout, malgré son retard sur le FC Barcelone au classement. C'est tout, Anastasie.
C'est tout, merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guériec et Anastasie Tudiège. Place au dossier du jour et la première escale, c'est le Burundi.
Oui Morgane, la délégation de l'Union africaine, composée de 5 chefs d'État et de gouvernement, poursuit les discussions aujourd'hui. Hier, ils ont rencontré les responsables des partis de l'opposition qui ne sont pas en exil, ainsi que ceux de la mouvance présidentielle. La société civile a, elle aussi, rencontré ses leaders africains, mandatés par le sommet des chefs d'État et de gouvernement, réunis les 30 et 31 à Addis Abeba. S'il est vrai que la vision de l'origine de la crise burundaise n'est pas partagée par les protagonistes burundais, tous reconnaissent l'urgence de s'asseoir ensemble pour un dialogue extérieur inclusif. Aujourd'hui, les chefs d'État présents se sont entretenus avec le président burundais, Pierre Nkurunziza. Reportage de Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
L'hôtel Best Outlook, situé sur les hauteurs surplombant la capitale, a pendant plusieurs heures, jeudi, jusque tard dans la soirée, attiré l'attention de la classe politique burundaise de la mouvance comme de l'opposition. Les chefs d'État africains avaient choisi cet endroit, situé près du mausolée de l'unité nationale, pour se mettre au fait des divergences des politiciens et des membres de la société civile pour trouver une issue à la crise qui vient de faire plus de 400 personnes tuées en moins de 10 mois. Pour le chef de délégation de l'Union africaine, le président Jacob Zuma, l'objet de cette visite et de faire en soi ensemble tous les protagonistes burundais. Que les problèmes que le Burundi fait face actuellement ne peuvent trouver de remède que par le biais de la participation de tous les acteurs politiques burundais dans un dialogue inclusif et dont les résultats seront la paix, la sécurité et la stabilité du peuple burundais. Léon Sengendakumana, président du parti Front pour la démocratie au Burundi, revient sur les grandes questions qui ont été discutées avec la facilitation africaine.
Les questions en rapport avec ces cas de disparition, les questions en rapport avec les réfugiés, les exils, les questions en rapport avec le fonctionnement des partis politiques, le fonctionnement des médias, le fonctionnement de la société civile. Deux, les questions en rapport avec la légalité, l'accord d'Arusha et la Constitution, son interprétation, leur interprétation. Et enfin, les questions liées aux élections, sans oublier évidemment les questions liées à la pauvreté. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut rapidement saisir la médiation pour que le dialogue inclusif commence très rapidement.
Après presque 2 heures de consultation, Léon Sengendakumana se dit satisfait pour un dialogue inclusif tous les acteurs politiques.
Si on considère les conclusions des discussions qui ont eu lieu avec le secrétaire général des Nations Unies, si on considère les conclusions qui viennent d'avoir lieu avec les 5 chefs d'État, moi je pense que le résultat c'est d'essayer de renforcer la médiation. Il y a urgence, le cadre permettra de dégager les questions prioritaires à résoudre. Nous sommes satisfaits.
Les acteurs politiques encore à Bujumbura ont indiqué que la question de l'envoi de la force africaine n'a pas été débattue par la délégation de haut niveau de l'Union africaine. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Cette semaine, vous et nous suit un maître tambour burkinabé à New York, la première coureuse cycliste africaine, et oui, ça existe, et apprend à danser le tango et la salsa. Les téléspectateurs ne sont pas en reste. Dans On dit quoi, chacun montre son pas de danse préféré. Et puis, il sera question de nourriture avec l'Anglais Express, mais aussi dans la toute nouvelle rubrique. Elle s'appelle Arôme. À bientôt.
Au Sénégal, Réoumi, parti de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, appelle à voter non au référendum du 20 mars. Le banquier Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre de Macky Sall, se démarque de son ancien patron, tout comme l'ancien Premier ministre Souleymane Déné Ndiaye. Pourquoi toute cette levée de boucliers contre le président sénégalais ? Idriss Fall a joint Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger à Saint-Louis et dans le nord du Sénégal.
La polémique continue parce que les collègues juristes constitutionnalistes, le président n'était pas lié à l'avis du Conseil constitutionnel. Il avait donné sa parole pendant la campagne, il avait décidé de réduire son mandat, d'appliquer le quinquennat une fois qu'il arrive au pouvoir. Et il avait persisté à chaque fois qu'il est interpellé sur cette question de dire qu'il tiendra parole de réduire son mandat. Et maintenant, les Sénégalais l'ont pris au mot. Ils ont considéré qu'il n'a pas tenu parole et qu'il s'est dédié. Cela rejoint ce que Maître Wade avait fait lors de son troisième mandat.
Mais Macky Sall, il était président de l'Assemblée nationale lorsque Wade a cherché à changer la Constitution. Il n'était pas passé directement par le Conseil constitutionnel. D'abord.
Non, il n'était pas passé par l'Assemblée. On savait bien que pour réviser le mandat, il fallait l'avis du président de l'Assemblée nationale et celui du Conseil constitutionnel. Mais il n'était pas question de se soumettre à l'avis du Conseil constitutionnel. Les juristes sont partagés sur la question s'il s'agit d'un avis ou d'une décision. Cela importe peu. L'essentiel est que le président n'est pas obligé de suivre l'avis du Conseil constitutionnel. Il pouvait, compte tenu de son engagement personnel à l'endroit des citoyens sénégalais, tenir parole et réduire le mandat en cours.
Aujourd'hui, on assiste à une recomposition du paysage politique.
On a vu hier la publication du manifeste des 45 juristes et politistes qui ont manifesté leur opposition à cette décision-là et considèrent que le président n'était pas du tout lié. Paradoxalement, Macky Sall a soudé l'opposition. L'opposition a été fragmentée. Maintenant, elle est en train de se ressouder, s'organiser avec la société civile. Donc, ça constitue un front sérieux et qui peut renverser les résultats du référendum. Si jamais le non l'emporte, ce serait un désaveu que le président tente de contourner. Je ne sais pas par comment, par quel moyen et par quelle astuce.
Pour le moment donc, il y a Idrissa Seck, il y a Khalifa Sall, il y a Abdoul Mbaye qui sont en ordre de bataille.
Et Souleymane Ndiaye, en premier ministre. Il y a toute une coalition contre le oui du président à la République. Il y a tout un front composé d'anciens premiers ministres, composé de leaders politiques et puis surtout de la société civile. Le mouvement 23 et le mouvement Yanamar, une pluralité de gens qui sont coalisés ponctuellement et qui se dressent justement contre la politique de président Macky Sall. C'est quand même une menace sérieuse pour la poursuite de sa politique et l'avenir même de son destin politique.
Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar. Sur 102 FM.
Selon la CAT et Survie, la France doit sortir de son silence et condamner la répression en cours au Tchad. Le régime tchadien est partenaire privilégié des opérations militaires françaises dans la sous-région, rappellent les deux ONG dans un communiqué conjoint. Ce qui pose question quant à la légitimité de la poursuite de cette coopération au regard des exactions constantes du régime sur sa population, estiment les deux ONG. Nathalie Barge a joint à Paris Juliette Toirson de Survie.
Il y a un fort partenariat, une coopération sécuritaire importante avec le régime tchadien. Donc forcément, quand il y a répression, quand il y a des jeunes qui sont tués par balles lors de manifestations, ça nous interroge aussi sur la légitimité de cette coopération sécuritaire de la France avec Idriss Déby. En fait, la France au Tchad a des accords de coopération militaire depuis 1976. Elle forme et elle réforme l'armée tchadienne depuis cette époque-là et en particulier depuis 2011. Et par exemple, très récemment, depuis septembre 2014, elle a mis en place un programme de formation et de soutien plus spécifiquement adressé à la gendarmerie et à la police sur les questions antiterroristes. Vu qu'il y a des exactions qui se font par ces mêmes forces de l'ordre, à un moment, on s'interroge sur dans quelle mesure cette formation française, elle participe pas aussi à cette répression-là de façon indirecte.
La France n'a pas remis en cause de quelconque programme de formation avec le Tchad ?
Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. En fait, il y a un nouveau programme depuis septembre 2014. Le Tchad accueille le centre opérationnel de l'opération extérieure Barkhane qui agit sur tout le Sahel. On voit bien qu'en contrepartie de ça, il y a un silence.
Vous pointez du doigt la responsabilité de la France par rapport à sa présence militaire et du côté de la communauté internationale.
C'est vrai que de façon générale, il y a peu de réactions sur ce qui se passe au Tchad. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a une difficulté des Tchadiens en fait, à pouvoir communiquer en direction de l'extérieur. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait vraiment une attention de la communauté internationale aussi sur ce qui se passe au Tchad et qu'il y ait une condamnation de ce régime.
Vous l'expliquez également par le fait finalement que ces opérations antiterrorisme, on compte beaucoup sur le Tchad, sur le continent africain ?
Oui, c'est sûr que ces dernières années, ça a été la carte qu'a joué Idriss Déby d'essayer de se redorer son image en se montrant être un allié parfait dans la lutte antiterroriste, que ce soit en alliance avec la France à partir de 2013 au Mali, ou que ce soit aussi dans la lutte contre Boko Haram. Donc effectivement, Idriss Déby aujourd'hui a un discours à l'international sur la lutte antiterroriste qui permet aux acteurs internationaux de fermer les yeux quant à la communauté internationale au niveau africain. Idriss Déby est actuellement le président de l'Union africaine. Donc on peut dire aussi que la communauté africaine, elle va pas forcément réagir par rapport à sa politique intérieure.
Juliette Toirson de l'association Survie à Paris.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
La FIFA a un nouveau président. Gianni Infantino a été élu avec 115 voix sur 207 votants au second tour. Il aura pour mission de restaurer l'image et la crédibilité de la FIFA, écornée par un gros scandale de corruption à grande échelle. Avant l'élection, le congrès de la FIFA a adopté des réformes pour améliorer la gouvernance avec une limitation à 12 ans de cumul des mandats du président et un contrôle de l'intégrité des élus. Elle vise aussi à augmenter la transparence des flux financiers et des rémunérations. Pour réaction, Eric Manirakiza joint en France l'ancien international sénégalais Oumar Dieng, qui est donc d'origine sénégalaise.
Moi, c'est une grosse surprise, hein. C'est une très très grosse surprise. Avec tous les débats que le football a connus, je militais pour qu'un ancien footballeur puisse être à la tête de la FIFA pour avoir eu cette expérience qui fait toujours la différence. Après les technocrates, je ne suis pas trop pour, il en faut. Mais quand on parle de foot, je pense qu'il faut tout simplement rendre à César ce qui appartient à César. Donc après, derrière, c'est sûr qu'il y aura un gros débat. Mais moi, je milite pour que le foot reste entre la main des footballeurs, parce qu'à un moment ou un autre, ils auront besoin de comprendre, de se mettre à la place du footballeur, des instances. Et moi, j'ai lu un petit peu son programme, je ne partage pas tout à fait son avis.
Des 5 candidats en lice, il n'y avait aucun l'ancien joueur parmi eux. Et l'une des promesses phares de M. Infantino, c'est redistribuer aux fédérations membres de la FIFA 25% des recettes annuelles de la FIFA. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui va aider les fédérations à se développer?
Ah oui, ça c'est sûr que c'est une mesure qui va aider toutes les fédérations qui tirent le diable par la queue. Mais il ne faudrait pas qu'ils mettent la charrue avant les bœufs. À ce que je sache, l'image de la FIFA a été très très bien écornée. Je pense que dans un futur proche, ils auront beaucoup de soucis au niveau financier. Donc je pense que cette redistribution-là, il a tout simplement proposé pour pouvoir attirer un peu l'attention, l'intention de vote des présidents de fédération. Mais elle sera quasi impossible à mon avis parce que la FIFA va à des lendemains très très difficiles. L'image de la FIFA, l'image du football en général a été écorchée et les grands sponsors de la FIFA sont tout simplement en train de revoir leur copie à la baisse, tout simplement. De 25% de plus pour les fédérations, moi je le verrais un peu moins.
Avant cette élection, le Congrès a adopté des réformes visant à améliorer la transparence et la gouvernance. Est-ce que vous pensez qu'avec Infantino, l'image de la FIFA va être redorée?
Non, moi je suis pessimiste, je suis vraiment pessimiste et je parle avec un gros pincement du cœur. Comme vous dites, 18 ans de carrière de footballeur professionnel, j'ai mon mot à dire, oui, mais ça me fait vraiment mal de voir dans quelle direction on est en train de porter le foot. Hein. Je suis père de deux garçons, si demain ils veulent faire carrière dans le football, bah, je me dois au moins de leur donner une visibilité. Et cette visibilité-là, bah, je ne l'ai toujours pas.
Voilà, c'était Oumar Dieng, joint en France.
Joint.
Voilà, donc c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, on avait donc Lionel Gaïma, Micha Dubinski à la console. Présentation Anastasie Tudiech et Morgane Guiriec.
Et c'était un plaisir pour une première, Morgane,
oui.
À renouveler dans quelques temps. Ainsi va le monde aujourd'hui. Si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, si vous voulez partager des photos sur ce qui fait l'actualité chez vous, soyez les bienvenus. Notre page Facebook VOA Afrique est là pour vous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.